Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mercredi 26 février 2020. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, le procès en appel de Jacques Mangoua, président du conseil régional de Mbeke, a été reporté au 24 mars.
Au Niger, les enseignants des universités publiques ont entamé cette semaine un nouveau mouvement, 9 mois de grève.
En République démocratique du Congo, célébration hier à Kinshasa d'une messe à la mémoire des martyrs de la démocratie.
Human Rights Watch accuse les forces gouvernementales camerounaises et une milice Peul alliée d'avoir perpétré le meurtre d'une vingtaine de civils, dont 13 enfants, le 14 février en zone anglophone.
Les autorités algériennes ont annoncé mardi un premier cas de nouveau coronavirus en Algérie, un Italien arrivé en Algérie le 17 février.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, le procès en appel de Jacques Mangoua, président du conseil régional du Mbeke, condamné à 5 ans de prison, a été reporté au 24 mars en raison de l'absence de l'accusé. Il est écroué à Abidjan et n'avait pas été transféré pour l'audience. Le point avec Ekiabadou.
Quelques 200 militants du PDCI étaient présents au tribunal de Boaké sous haute surveillance policière. Faute de prévenus, le juge Tahirou Dembélé a renvoyé l'audience au 24 mars. Monsieur Mangoua, qui a toujours clamé son innocence, a été condamné le 3 octobre 2019 à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour détention illégale de munitions de guerre. Son entourage crie au complot et au coup monté. Un de ses proches assure que c'est lui-même qui a averti la gendarmerie de la présence des armes à son domicile. Jacques Mangoua préside la plus grande région de Côte d'Ivoire, donc vitale pour la présidentielle cette année. Il est un vice-président du PDCI d'Henri Conan Bédier, maintenant passé dans l'opposition. Sa condamnation a été suivie de troubles qui ont fait un mort. C'est dans sa région se trouve également le village de Béoumi, théâtre en mai 2019 de violences intercommunautaires qui avaient fait au moins 16 morts.
Au Niger, les enseignants des universités publiques ont entamé cette semaine un nouveau mouvement d'un mois de grève à l'appel de leur syndicat. Le mouvement vise à protester contre l'adoption l'année dernière d'une loi qui instaure la nomination par décret des recteurs des universités qui étaient, avant cette loi, élus par les enseignants et les étudiants. De Niamey, notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Les étudiants, principales victimes de ce bras de fer entre le syndicat des enseignants-chercheurs et le gouvernement, lancent un cri de cœur aux deux parties.
Nous sommes en retard. Même s'il n'y a pas la grève, nous sommes en retard. La plus forte raison avec la grève.
Je crois que nous allons tous redoubler.
J'appelle l'État et les enseignants-chercheurs de s'asseoir et de voir ce qu'ils peuvent faire pour nos études. Puisque nos années sont en train de partir, imaginez, tu vas faire combien d'années pour la première année seulement? C'est pas du tout bon.
Tout ce qu'on demande, nous, c'est de retourner à l'école.
Le syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs du supérieur annonce que toutes les activités académiques que sont les cours, les travaux dirigés et les travaux pratiques prévus durant la période du mouvement de grève seront considérées comme exécutées. Toutes les tentatives de médiation ont jusqu'ici échoué, le gouvernement ayant annoncé qu'il n'est pas question de revenir sur le mode de désignation des recteurs, point essentiel des revendications du syndicat des enseignants. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Mauritanie, les dirigeants réunis pour un sommet du G5 Sahel à Nouakchott ont affirmé mardi la nécessité d'une intensification tous azimuts de l'effort de lutte contre la propagation du djihadisme et des violences dans la sous-région. Le G5 Sahel, qui inclut également le Mali, le Niger et le Tchad, fournit depuis 2014 un cadre de coopération entre les 5 pays pour la sécurité et le développement.
Le Sahel est confronté à une forte poussée djihadiste et à une sévère dégradation sécuritaire aggravé par une série de défis démographiques, économiques et environnementaux, sans solution apparente à court terme. Les participants ont affirmé la nécessité d'une réponse non seulement militaire, mais aussi politique et sous forme d'aide au développement. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec Ahmedou Ould Abdallah, l'ex-représentant spécial du secrétaire général de l'ONU.
En République démocratique du Congo, quelques 300 personnes ont célébré mardi à Kinshasa une messe à la mémoire des martyrs de la démocratie tués début 2018 dans des marches demandant le départ de l'ancien président Joseph Kabila. À l'origine de la messe et des marches de 2018, le collectif chrétien du comité laïque de coordination qui a demandé aux autorités justice pour les familles des victimes. Le CLC a envisagé de porter plainte et de se constituer partie civile aux côtés de toutes ces victimes.
Et puis, parlons du Cameroun. Human Rights Watch a accusé mardi les forces gouvernementales camerounaises et une milice peu alliée d'avoir perpétré le meurtre d'une vingtaine de civils, dont 13 enfants, le 14 février au Cameroun anglophone. L'armée avait démenti dès les premiers jours, assurant qu'il s'agissait des conséquences d'un malheureux accident. L'explosion de conteneurs de carburant consécutive à des échanges de tirs entre soldats et rebelles séparatistes. Et l'armée n'a évoqué la mort que de 5 civils.
Toujours au Cameroun, le Conseil constitutionnel a annulé les législatives du 9 février dans une partie des deux régions anglophones en proie à un sanglant conflit séparatiste et qui avait largement ignoré le scrutin. C'était soit en soutien aux indépendantistes, soit par crainte des groupes armés qui leur avaient interdit d'aller voter.
Le Soudan a envoyé hier une délégation à Washington pour assister à des négociations avec l'Égypte et l'Éthiopie sur le projet de méga barrage éthiopien sur le Nil. La réunion aura lieu les 28 et 29 février. Le point avec Abdourahman Dia.
La rencontre tripartite devra se pencher sur une proposition du Trésor américain visant à aplanir deux des principaux points de friction, le remplissage du réservoir et la mise en route du barrage. Situé sur le Nil Bleu, le grand barrage de la Renaissance doit devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, mais la question de la redistribution des ressources du fleuve crée des tensions entre Addis Abeba, Khartoum et le Caire. Après 9 années de blocage, les États-Unis et la Banque mondiale parrainent depuis novembre 2019 des discussions pour trouver un accord entre les trois pays. Si l'Égypte, qui dépend très majoritairement du fleuve pour son approvisionnement en eau, marque son opposition de manière virulente à ce projet, le Soudan le voit d'un bon œil. Khartoum espère que le barrage éthiopien lui fournira de l'électricité et contribuera à réguler les crues du fleuve.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les autorités algériennes ont annoncé mardi un premier cas de nouveau coronavirus en Algérie. Un Italien arrivé dans ce pays le 17 février. Le seul cas confirmé de maladie en Afrique avait été jusque-là recensé en Égypte. Selon la télévision, la personne infectée a été placée en isolement. Les circonstances de son infection ne sont pas établies. Le ministère de la Santé a assuré avoir renforcé le dispositif de prévention autour du cas confirmé et le dispositif de surveillance et de veille au niveau de tous les points d'entrée en Algérie.
Le nouveau coronavirus a poursuivi mardi ses ravages à travers le monde et qui, selon un expert de l'OMS, n'est tout simplement pas prêt à y faire face. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avertit que le monde reste menacé de pandémie, à savoir une épidémie d'ampleur internationale. L'épidémie apparut en décembre dans le centre de la Chine, où elle a contaminé quelques 78 000 personnes, dont plus de 2 700 sont mortes, ont indiqué mercredi les autorités chinoises.
L'épidémie touche donc de plus en plus de pays, y compris en Europe. Elle concerne désormais, Chine mise à part, plus d'une trentaine d'États où elle a fait plus de 40 morts et 2 500 contaminations. Bagassikoura.
En Corée du Sud, les contaminations ont bondi pour atteindre près d'un millier de cas. Ce pays qui compte 10 morts est le premier foyer mondial après son voisin chinois. Le Japon a annoncé le décès d'un quatrième passager issu du paquebot Diamond Princess où près de 700 personnes ont été infectées. Téhéran a annoncé 3 nouveaux décès portant son bilan à 12 morts, le plus lourd en dehors de la Chine. L'Italie est le pays européen le plus touché avec 7 morts et près de 300 personnes contaminées. L'Autriche voisine a annoncé 2 premiers cas. La Suisse aussi a son premier cas dans une région proche de l'Italie. En Croatie, un jeune homme est devenu le premier cas connu dans les Balkans. 2 nouveaux cas ont été confirmés en France où 14 cas ont été détectés. 1 mort et 11 considérés comme guéris. L'OMS s'inquiète des risques pour les pays pauvres et mal équipés et la Chine est prête à offrir assistance et matériel médical aux pays africains, a déclaré le président Xi Jinping.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'ancienne ministre des Finances du Libéria, Antoinette Saillé, deviendra directrice générale adjointe du Fonds monétaire international à compter du 16 mars. Antoinette est très connue et très respectée pour avoir occupé au FMI le poste de directrice du département Afrique entre 2008 et 2016, où elle a mené une transformation importante des relations du Fonds avec nos pays membres africains, a commenté la dirigeante du Fonds, Kristalina Georgieva, dans un communiqué. Madame Saïe avait renforcé les finances publiques du Libéria tout en promouvant la réforme de la gestion des finances de l'État, selon le FMI. L'ONG Sign of Hope appelle les autorités sud-soudanaises à fermer un oléoduc qui a déjà fait couler plus de 25 000 barils de pétrole pour éviter de nouvelles pollutions. L'ONG dénonce aussi une autre fuite près de Roubkona, dans le nord du pays, qui a déjà laissé échapper entre 2 000 et 12 500 barils de brut, soit environ 2 millions de litres qui se sont répandus dans la nature et ont pollué l'eau. Pour terminer, le ministère rwandais des Finances a demandé au Parlement d'augmenter de 4,8% les dépenses du gouvernement pour l'exercice financier qui s'étend jusqu'en juin. Les dépenses supplémentaires porteront les dépenses du gouvernement à 3,29 milliards de dollars. Ces fonds financeront l'embauche de nouveaux médecins et d'autres programmes gouvernementaux, a déclaré le ministre des Finances.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cyclisme, place à la quatrième étape du Tour du Rwanda aujourd'hui.
Oui, c'est l'étape la plus longue, 206,3 km. Elle se court entre Rusizi et Rubavu. Hier, Jonathan Valencia a enlevé la troisième étape courue entre Ouye et Rusizi. Le Colombien a bouclé les 142 km en 3h47 minutes 49 secondes devant l'Érythréen Binyam Aïlou et son compatriote Enoch Moulié-Béran. À l'issue de cette étape, le Kazakh Yevgeny Fedorov cède le maillot jaune à Binyam Aïlou. Ce dernier possède 5 secondes d'avance sur Moulié-Béran. Le Colombien Carlos Julián Quintero complète le podium.
Juan Carlos Garrido, nouvel entraîneur du Wydad Casablanca.
Oui, l'Espagnol a été nommé à la tête du Wydad Casablanca, finaliste de la dernière Ligue des Champions, en remplacement du Français Sébastien Desabre. Ce dernier n'est resté qu'un mois en poste, nommé coach le 21 janvier. Il s'est séparé du club à l'amiable, assure le Wydad. Mais selon la presse locale, il a été remercié après une série de mauvais résultats. Juan Carlos Garrido, 50 ans, ancien coach de Villarreal, du Betis Séville, d'Al-Ahly ou du Raja Casablanca, a quitté début février le club tunisien de l'Étoile sportive du Sahel qui affronte ce samedi le Wydad en quart de finale de la Ligue des champions.
Le Zimbabwe recevra l'Algérie sur terrain neutre en éliminatoire de la CAN 2021.
Ainsi en a décidé la CAF d'après un communiqué de la Fédération zimbabwéenne de football. Conséquence, le match du 29 mars contre l'Algérie devra se disputer dans une enceinte homologuée mais hors du Zimbabwe. L'instance africaine du ballon rond reproche au Zimbabwe la non-conformité de son stade avec les standards internationaux. À l'issue d'une inspection en fin d'année dernière dans le pays, la CAF a fait plusieurs recommandations, mais depuis, rien n'a été fait. Le pays ne dispose plus d'aucun stade aux normes pour accueillir des rencontres internationales.
Ligue des champions ce soir en Europe.
Le Real Madrid qui reçoit Manchester City en huitième de finale aller espère éviter l'humiliation d'une nouvelle élimination à ce stade de l'épreuve face à des citizens désireux de retarder leur au revoir à l'Europe. Le Real retrouve un de ses meilleurs ennemis, Pep Guardiola, désormais entraîneur des citizens. Le Catalan n'a plus affronté le Real depuis 2014 et une gifle reçue en demi-finale de cette même Ligue des champions alors qu'il entraînait le Bayern Munich, défaite 1-0 puis 4-0 au retour. Dans l'autre match de la soirée, Lyon reçoit la Juventus Turin dans l'un des duels les plus déséquilibrés de ses huitièmes de finale. Du basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Milwaukee et Toronto 108 à 97, Indiana et Charlotte 119 à 80, Oklahoma City et Chicago 124 à 122, Denver et Détroit 115 à 98, Boston et Portland 118 à 106. Et rendez-vous à 7h temps universel pour les résultats du match LA Lakers et la Nouvelle-Orléans.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les dirigeants réunis pour un sommet du G5 Sahel à Nouakchott ont affirmé ce mardi la nécessité d'une intensification tous azimuts de l'effort face à l'urgence de la propagation du djihadisme et des violences dans la sous-région. Le G5 Sahel regroupe le Burkina, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad et fournit depuis 2014 un cadre de coopération entre ces pays sur la sécurité et le développement. Le sommet a eu lieu alors que le Sahel est confronté à une forte poussée djihadiste et à une sévère dégradation sécuritaire aggravée par une série de défis démographiques, économiques ou environnementaux sans solution apparente à court terme. Pour une analyse, Idriss Fall a joint l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et spécialiste des questions de sécurité dans le Sahel, Ahmedou Ould Abdallah.
Deuxième réunion s'est déroulée dans une ambiance que je peux décrire d'engagement. Engagement, la Mauritanie qui vient avec plutôt un bon background. Le président est un ancien chef d'état-major, quelqu'un qui connaît la région et pour le moment, avec ses collègues, le SPEM a réussi à ne pas être victime d'attaques depuis 2011-2012. Deuxièmement, la réunion est marquée par un nouveau volet sur le volet économique. Comment, avec la Banque mondiale, les institutions d'Afrique de l'Ouest qui ont déjà marqué le point, la CDAO, du MOA, l'Union européenne, comment renforcer ou créer et consolider le volet économique?
Le Mali dit avoir engagé des discussions avec certains leaders djihadistes. Est-ce que c'est une démarche partagée par tout le monde ou bien?
Les Maliens sont partis du principe que tout conflit se termine par une négociation et ils ont dit qu'ils vont donner une chance à la négociation. Pourquoi pas? C'est peut-être que le Mali fait cela pour ne pas montrer qu'ils sont jusqu'au boutiste, qu'ils sont ouverts à tout ce qui peut ramener la paix à leur pays, en particulier des zones rurales.
Le problème du Mali, ce n'est pas Amadou Koufa ni Yada Gali. Le problème du Mali, c'est Al-Sahrawi du groupe État islamique qui décime la région, Burkina, Mali et Niger.
Vous avez raison, en grande partie, un certain nombre d'observateurs pensent qu'il y a effectivement les Maliens qui ont pris des armes contre le gouvernement depuis plusieurs années, donc acquis, avec Yad Atani et Amadou Koufa, mais qu'en fait, on peut négocier, on peut discuter avec ces gens. C'est un point de vue très répandu au Mali. Et d'autres qui disent, bon, si vous annoncez une négociation prématuré, tous les extrémistes de Amadou Koufa et de Yad Ali vont rejoindre Sahraoui et pendant un moment donné, il y aura un flottement entre les groupes radicaux, mais ils finiront par se mettre d'accord sur un point de vue radical. Mais d'autres disent, écoutez, même les Américains négocient avec l'Afghanistan, pourquoi pas nous? Pendant ce temps, les djihadistes renforcent leur position et les pays voisins se sentent concernés et même menacés. Des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui ont une expérience des armées professionnelles.
Aussi le Bénin et même le Togo.
Toute la côte, y compris le Guinée, Libéria, le Bénin et le Togo, le Ghana se sentent concernés. C'est très intéressant, la solidarité de ces organisations exprimée à Nouakchott. Il y avait la présence de la CDAO, la présence de l'IMOA, qui ont déjà dégagé des fonds pour renforcer les positions de lutte contre les radicaux.
L'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, le spécialiste des questions de sécurité dans le Sahel, Ahmedou Ould Abdallah.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Sénégal, le président Macky Sall a décidé de mettre un terme aux achats incontrôlés de véhicules dans l'administration publique, des dépenses qui ont atteint la somme record de 119 milliards de francs CFA lors de son premier mandat. La mesure de restriction, longtemps annoncée, a été officiellement entérinée et a pris effet dès ce 20 février. Les populations espèrent que cela va contribuer à la réduction du train de vie de l'État et les agents du secteur public espèrent, eux, de plus profonds changements. Notre correspondant à Dakar, Sédina Abagay.
Après plusieurs promesses de réduction du train de vie de l'État, le président Macky Sall a décidé de frapper fort. Et cette fois, les populations ont bon espoir que cela va porter ses fruits. Mamadou Diarra Diop est un jeune cadre et il pense que cette décision peut être salvatrice s'il y a une bonne entité pour assurer le suivi.
Notre train de vie est excessivement cher. Nos autorités se permettent de faire du n'importe quoi avec l'argent du peuple. En fait, je crois que c'est ça le problème du Sénégal. Il n'y a jamais de suivi. Ils prennent des initiatives, même s'il le faut, ils prennent un décret. Mais après, il n'y a pas une structure adéquate pour suivre. Ça. Du coup, au bout de 2, 3 mois ou maximum 5 mois, cette décision va devenir désuète. C'est ça notre problème.
Au-delà du suivi, l'entretien et le recyclage des véhicules peut aider l'État à réduire considérablement ses dépenses en achat de voitures. C'est l'avis de Mohamedou Diagne, statisticien économiste.
Si on constate bien, durant toutes ces années, on a effectué des achats d'automobiles. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, si vous regardez bien au niveau du parc automobile de l'État, il y a des voitures qui sont en bonne et uniforme, mais le souci en est que à chaque fois, chaque gouvernement veut de nouvelles voitures et qu'on pouvait économiser de l'argent pour réparer ces voitures, les mettre en commande directe à la disposition des agents de l'État et ensuite économiser plus d'argent pour d'autres domaines.
Économiser, c'est bien, mais rentabiliser les dépenses, c'est encore mieux si l'on se fie à Moustapha Fall, un fonctionnaire de l'administration sénégalaise. Pour lui, c'est le système d'octroi des véhicules qu'il faut carrément changer.
Je pense que c'est une mesure opportune. Parce que déjà, moi, la manière dont les véhicules de l'administration sont distribués ont déjà faussé le débat. Je m'explique, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas comprendre un fonctionnaire qui a la possibilité d'acheter un véhicule avec son salaire, qui a la possibilité de faire un prêt, d'avoir un véhicule. Moi, je pense que l'État n'a pas besoin de donner à ce dernier un véhicule. Moi, je pense que les véhicules de l'administration, on devait les distribuer aux fonctionnaires qui sont dans l'impossibilité de se procurer un véhicule à partir de leur base salariale.
Pour que la mesure de restriction d'achat des véhicules soit un succès total, le président Sall a demandé la finalisation du recensement intégral de l'ensemble des véhicules administratifs, de réviser leur réglementation, de proposer un schéma de réforme des véhicules âgés de 5 ans et plus et d'examiner pour les ayants droit rigoureusement retenus les modalités d'allocation d'une indemnité forfaitaire globale intégrant l'amortissement du véhicule, le carburant, l'entretien et l'assurance. À Dakar, Sédina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Des procédures sont ouvertes au niveau des parquets et des interpellations ainsi que des détentions préventives ont été opérées. Parmi les personnes frappées, un entrepreneur américain et un Libanais. Un dossier d'Eddie Isango.
Mardi matin, Jamal Samit, sujet libanais, patron d'une société nommée Samibo, a été placé en détention préventive à Makala, accusé de n'avoir pas réalisé la construction des 4500 logements sociaux alors qu'il avait perçu 17 millions de dollars. Réaction du président de la Ligue congolaise de la lutte contre la corruption, Ernest Mpararo.
C'est une intervention effectivement normale parce qu'il y a eu des infrastructures qui avaient été financées par les fonds du gouvernement et nous observons à Kinshasa que ces infrastructures-là, ces projets-là n'avancent pas. Ça fait à peu après une année que ces infrastructures ont été financées, mais nous insistons à ce qui se passe, c'est que ces infrastructures n'avancent pas. La grande majorité des Congolais dénoncent ce genre de faits et c'est ainsi que le chef de l'État a réagi en ordonnant effectivement au parquet d'investiguer et d'interpeller toutes les personnes qui sont impliquées dans ces détournements. Ce n'est pas encore un signe que ça va produire un fruit parce que tout ce qui se passe lorsque l'appareil judiciaire est hyper politisé en RDC, et la première chose que nous demandons aux politiques, ce n'est pas interférer dans la procédure ou ou lorsque le parquet est entré, d'entendre ou d'investiguer. Et c'est ce qui est le plus grand problème.
Vendredi, l'Américain David Blattner, patron des Africas, a été lui également mis en détention préventive pour des viaducs ou sauts de moutons dont la construction de certains n'a pas encore débuté près d'un an après. Le député de Kinshasa, Gérard Jekoko Mulumba, estime que la démarche du président Félix Tshisekedi doit aller jusqu'au bout.
Ce n'est pas ça la fin de la procédure. Si ça vrai que ces messieurs l'avaient perçu de l'argent, qu'ils n'avaient pas du tout travaillé, ils doivent commencer par restituer l'argent de l'État qui m'appartient, qui appartient à tous les Congolais, et qu'ils soient punis sévèrement. Qu'ils soient Libanais, qu'ils soient Américains, qu'ils soient Chinois, on s'en fout de sa nationalité, on s'en fout de leur nationalité. Nous, c'est l'argent du Congo.
Dans le même temps, une plateforme d'ONG demande au président Félix Tshisekedi d'ordonner des audits des entreprises de Dan Gertler, homme d'affaires israélien opérant en RDC. Un des membres de la campagne Le Congo n'est pas à vendre, Emmanuel Mpula nous en parle.
L'État congolais, à travers ses entreprises, a perdu beaucoup d'argent. Donc, c'est tout à fait normal, dans le cadre du contrôle citoyen, que la campagne Le Congo n'est pas à vendre puisse demander à ce que le président de la République autorise les gels des avoirs de ces entités-là, mais aussi puisse initier, demander à ce qu'un audit soit initié. Dans beaucoup de pays, les enquêtes qui sont dirigées contre les transactions faites en RDC, vous avez le cas des États-Unis, qui est un cas qui est patent où M. Dan Gertler et toutes ces entités sont sanctionnées. Donc, pour nous, en tant qu'ONG, nous disons que si à l'étranger, ces entités-là sont poursuivies, pourquoi pas dans les pays où elles ont eu lieu.
Le président Félix Tshisekedi avait annoncé à son arrivée au pouvoir l'année dernière que la lutte contre la corruption était son cheval de bataille.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Pour terminer, retour sur la disparition de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, longtemps considéré comme le symbole de la stabilité au Moyen-Orient, mais évincé lors d'un soulèvement populaire en 2011. Il est décédé ce mardi à l'âge de 91 ans. Son régime a été balayé par le printemps arabe. L'avis de celui que certains appelaient le Raïs. Un rappel d'Elisabeth Harrod de La Voix de l'Amérique, repris ici par Abdourahmane Dia.
Hosni Moubarak était aux commandes pendant près de 30 ans et il a fait de la gestion du pays une affaire familiale. Il avait placé ses amis et sa famille à des postes stratégiques. On le soupçonnait aussi de vouloir préparer son fils à lui succéder, jusqu'à ce que la rue en décide autrement. Et c'est son vice-président Omar Suleiman qui a annoncé la nouvelle de sa démission.
Dans ces circonstances difficiles que traverse l'Égypte, le président Moubarak a décidé de démissionner de son poste de président.
Quelques mois plus tard, il était au banc des accusés, jugé pour le meurtre de manifestants. Il a été condamné à la prison à perpétuité. C'était une fin politique impensable pour celui qui était le seul président que la plupart des Égyptiens ont connu. Pourtant, la présidence ne semblait pas être parmi ses ambitions. En 1981, les frères musulmans avaient tué le président Anwar Sadat, en partie pour avoir fait la paix avec Israël. Le vice-président Hosni Moubarak était à ses côtés. Cet événement tragique l'a propulsé à la tête du pays. Malgré son rôle dans la guerre de 1973 contre Israël en tant que chef de l'armée de l'air, il est devenu un élément incontournable dans le rapprochement entre l'Égypte et l'État hébreu lorsqu'il a pris le pouvoir. Il va diriger le pays d'une main de fer pendant trois décennies, le plaçant en situation d'état d'urgence quasi permanente. Hussein Abdel Razak, l'ancien chef du parti de gauche Tagamou.
L'objectif premier de Moubarak était la paix et la stabilité.
Mais ce sont les activistes et les opposants qui ont payé le plus lourd tribut de sa politique dite sécuritaire. Kissam Kassem, analyste politique.
Nous ne parlons pas seulement de quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 30 ans et qui n'a rien fait. Avec lui, c'était l'obscurité. C'est cela son héritage. Il était ultra corrompu.
Aujourd'hui, malgré tout, le pouvoir actuel et certains parmi ceux qui l'ont combattu ont tenu à lui rendre hommage.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, la commission électorale togolaise a proclamé le président sortant Faure Gnassingbé vainqueur de la présidentielle du 22 février avec plus de 72% des voix. L'opposant Agbeyome Kodjo conteste les résultats et appelle à la mobilisation. Le scrutin qui a conduit à la réélection de Faure Gnassingbé pour un quatrième mandat s'est déroulé dans le calme. Qu'est-ce qui explique la large victoire du président Faure? La période post-électorale ouvre-t-elle des perspectives de dialogue au Togo? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Zeynab Abdelrahman. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.